Je me réjouis d'être parmi vous après quelques temps d'absence dû à des déplacements divers et variés. Et je me réjouis de me retrouver, de célébrer le Seigneur avec vous. Et merci pour ce temps d'adoration conduit par notre frère Joël. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Je vous propose de lire trois textes. On va aller de plus long au plus court et on part de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le premier, c'est dans Isaïe. Ce sont des textes normalement connus. Isaïe 53. C'est le quatrième chant du serviteur du Seigneur. On va commencer la lecture à partir d'Isaïe, chapitre 52, le verset 13. Et nous lirons aussi le chapitre 53. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, et il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle de fils d'Adam, de même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été à raconter, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'était soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de sa plaie qui les avait atteints. On a mis Satan parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fronde dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il vivra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur, le juste, justifiera beaucoup, nombreux hommes, femmes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Deuxième texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, un texte aussi connu. Chapitre 2, à partir de verset 6, parlant de Jésus-Christ. Jésus, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, deux genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un dernier texte, un verset, toujours sous la plume de l'apôtre Paul, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Amen. Jusqu'ici, nos lectures. À chacun de nos rassemblements, nous nous approchons de Dieu en toute liberté, en toute confiance et en toute assurance. À chaque culte, les chrétiens, où qu'ils se trouvent, s'approchent de Dieu trois fois saint, dans la joie et la reconnaissance, dans la paix et la confiance, dans la grâce et la sérénité. C'est aussi ce que nous vivons sur le plan personnel, individuel, lors de nos cultes personnels, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous le faisons en toute liberté, aussi bien individuellement que communautairement. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Il le dit clairement au chapitre 10, nous avons l'assurance d'un libre accès auprès de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il invite dès le chapitre 4 à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Quel privilège de pouvoir nous approcher de Dieu sans avoir peur de son juste jugement sur nous. Si nous pouvons venir devant Dieu en toute liberté, c'est parce que nous le faisons par l'intermédiaire de notre médiateur, Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons venir dans sa présence avec assurance et confiance pour être reçus favorablement. C'est parce que c'est en Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est aussi en Christ que nous sommes pardonnés. C'est aussi en Christ que nous sommes déclarés justes. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de notre Dieu en toute liberté. Mais si Christ peut nous donner un tel accès auprès du Père, c'est parce qu'il est le médiateur, comme le dit l'apôtre Paul, entre Dieu et nous. Ce matin, j'aimerais vous parler justement de ce médiateur, de Jésus comme le médiateur entre Dieu et nous. Ce Jésus médiateur qui est venu dans notre monde pour accorder, pour donner un nouveau départ. Il est venu pour établir une nouvelle réalité. Il est venu pour instaurer une nouvelle création. Pour présenter Jésus médiateur entre Dieu et les hommes, j'aimerais vous parler de ces deux états de Jésus incarné depuis donc dans notre histoire, à savoir l'humiliation et l'exaltation. Je mentionne d'emblée le manuel de notre frère Henri Blocher sur de la doctrine du Christ. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ce sujet, c'est le chapitre 4. Si vous voulez aller plus loin, je ne peux que vous encourager à lire ce chapitre. Les deux textes que nous venons de lire, aussi bien le texte d'Isaïe, le chant du serviteur, que le texte de Paul dans Philippiens 2, nous parle de ce mouvement d'humiliation du Fils de Dieu et d'exaltation. L'humiliation d'abord, c'est le premier mouvement qui ressort d'une manière très forte dans ces deux textes que je viens de vous lire. Cette humiliation se manifeste concrètement par la naissance, par le service et la passion de notre Seigneur. La naissance du médiateur exprime de plusieurs manières une forme d'humiliation. Bien sûr, la conception a été miraculeuse de Jésus-Christ, mais sa naissance, le fait de revêtir la nature humaine pour Jésus, alors que celle-ci est marquée déjà par le péché dès la chute, est une forme aussi d'humiliation. Bien sûr, il est dit très clairement que Jésus n'a jamais commis de péché, bien qu'il soit pleinement homme, comme nous précise l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cette humiliation à la naissance aussi de Jésus se manifeste sous les conditions humbles dans lesquelles il est venu dans notre monde. Il n'était pas venu dans un palais royal. Pourtant, il était bien roi, mais il est venu dans une mangeoire. Cette humiliation se poursuit aussi pendant les premiers mois de sa naissance. Il était poursuivi, menacé. Il y avait la menace de mort qui pesait sur lui. Il était obligé de prendre le chemin de l'exil. Très tôt, le chemin de l'exil, pour qu'enfin se retrouver quelque temps après dans une région abandonnée, méprisée de la Galilée, au point que c'est devenu presque un proverbe. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Galilée? Deuxième stade d'humiliation de notre Seigneur se manifeste dans son service, dans son ministère, ce ministère qu'il a accompli. Et Jésus précise à plusieurs reprises à ses disciples qu'il est venu pour servir et donner sa vie, et non pas pour être servi, bien qu'il soit maître, Seigneur. Jésus s'est soumis aux différentes contraintes, de son temps. Il s'est soumis à la loi et aux différentes pratiques juives de son temps, comme par exemple la circoncision, le baptême, ou encore la taxe du temple. Il s'est soumis à toutes ces contraintes, même s'il a gardé une vraie liberté de donner un vrai sens de la loi, d'interpréter selon l'intention initiale de Dieu, la loi, même s'il a gardé cette liberté-là. Et il s'est soumis. Il a accepté de payer l'impôt à César, bien que celui-ci n'a aucune autorité sur Jésus, qu'il ne lui soit donné par son père. C'est ce qu'il dit à Pilate, mais ce qui est vrai de Pilate l'est aussi de César. Jésus a connu l'humiliation dans son ministère aussi par les différentes souffrances qu'il a rencontrées, et elles n'ont pas manqué. Le prophète Isaïe disait qu'il sera habitué à la souffrance. Et les sources de souffrance n'ont pas manqué pour Jésus, des souffrances qui lui sont causées d'abord par le diable, par l'ennemi, les épreuves, les tentations. Il n'a cessé de le tenter pour le faire tomber dans le péché. Des souffrances causées par ses adversaires théologiques qui attendaient tout le temps, à chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, ils attendaient qu'il dise une parole approximative, pas juste, pas précise, pour qu'il soit accusé. Certaines personnes voulaient même attenter à sa vie. Il y a aussi des souffrances qu'il a dû ressentir quand il voit sa famille et la première à rejeter son message, ses frères. Et encore, sur le plan encore plus restreint auprès de ses disciples, il avait beaucoup de joie certainement avec ses disciples, mais il y a eu des moments aussi où il était triste, triste parce qu'ils étaient très lents à comprendre certaines choses. Toutes ces souffrances sont une des expressions d'humiliation de notre Seigneur. Et si Jésus acceptait toutes ces souffrances, toutes ces humiliations, de baisser, d'accepter tout cela, c'est parce qu'il veut être notre médiateur, parce qu'il veut donner l'occasion à l'être humain à nouveau de retrouver la présence de Dieu, à nouveau de connaître Dieu. Le dernier stade et le plus exigeant de cette humiliation de Jésus est celui de la passion. La passion est tellement importante que la plupart des évangélistes lui consacrent une bonne partie de leur évangile. Ils parlent de cette passion, une passion de Jésus. Cette passion de Jésus a été d'abord totale. Les souffrances ont été d'une intensité maximale, telle cette fois qu'aucun homme n'en a subi de plus grande. Elles ont affecté la personne entière, physique, morale, spirituelle, écrit notre frère Henri Blocher dans son manuel. Jésus a souffert la mort physique à la croix. La croix est l'un des instruments de supplice les plus infâmes, les plus atroces qui soient pratiqués en ce temps-là. Les descriptions de la crucifixion au 1er siècle font vraiment froid dans le dos lorsqu'on commence à lire les historiens qui rapportent comment les choses se faisaient. C'était atroce et Jésus a accepté cela pour être notre médiateur. Mais l'humiliation de Jésus sur la croix ne se limite pas à sa mort physique, elle porte aussi sur le plan spirituel, puisque Jésus a subi le jugement divin à cause de nos péchés. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois, écrit l'apôtre Pierre au chapitre 2 de la première épître. L'apôtre Paul dit aussi cela clairement en disant que Jésus est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », Galates 3. L'humiliation de Jésus à la croix a été totale, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. La passion de Jésus a été aussi pénale. À la croix, Jésus prend notre place. Lui, le juste, s'est donné pour les injustes, écrit à nouveau l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 3. Jésus parle de sa mort comme le paiement de prix de la libération du péché, de la rançon. Il exprime cela dans le passage que j'avais déjà cité. « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner ma vie en rançon pour une multitude. Il est question d'une rançon qui allait être donnée. Jésus se donne comme une rançon pour sauver une multitude des nombreux dont il est question déjà dans Isaïe 53. Jésus est ce berger qui est venu pour donner sa vie pour ses brebis, comme ça nous a été rappelé aussi pendant cette première période, pendant la première période de notre culte. Il est le bon berger qui est venu pour chercher non seulement toutes les brebis, mais aussi la brebis perdue. Chaque brebis compte. Il veut lui être médiateur. Ce salut offert passe par la satisfaction de la justice divine. Dieu ne transige en rien face au péché. Il a traité sans aucune concession. Et cela lui a coûté très cher. Il lui a coûté un grand prix, qualifie l'apôtre Paul à deux reprises dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 6 et au chapitre 7. Il dit que c'était un grand prix. À la croix, Christ satisfait parfaitement, totalement, la justice de Dieu, Romains 3. Enfin, la passion de Christ a été volontaire. La croix n'a pas été imposée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a choisi de donner sa vie librement pour le salut des nombreux, pour le salut de plusieurs. Jésus le dit clairement, je suis le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Et si Jésus va jusqu'à donner sa vie pour ses disciples, c'est parce qu'il les aima à l'extrême, écrit Jean au chapitre 13. Le don de Christ pour l'humanité est un don volontaire. Personne, dit Jésus à nouveau, pour montrer le caractère volontaire de ce don, il dit « Personne ne peut m'ôter ma vie. Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, dit Jésus dans Jean 10. » Il est important. Il est important de se rappeler de cela, de rappeler à certains qui voient dans la croix de Jésus qui voit dans la croix comme une défaite de Christ. La croix, Christ, à la croix, c'est un don volontaire. L'islam, l'une des raisons principales pour lesquelles il refuse la crucifixion de Jésus, parce qu'il l'interprète comme une défaite, comme si Jésus a été pris au dépourvu. Il est important de rappeler à nos amis musulmans, comme d'ailleurs à tous, que la passion de Jésus est volontaire, personne ne lui a imposé. Jésus n'a pas été une victime impuissante d'une condamnation injuste. Les évangiles soulignent qu'il avait tous les moyens d'échapper à ceux qui le condamnaient. Jésus lui-même disait qu'il avait une légion d'anges à sa disposition. S'il voulait faire appel à cette légion d'anges, il l'aurait fait. Jésus a accepté de mourir librement pour nous sauver, pour sauver tout ce qu'il accepte comme médiateur entre Dieu et eux. La mort de Christ à la croix est le dernier stade de cette humiliation de Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Après l'humiliation, c'est l'exaltation. C'est le second mouvement qui ressort d'une manière aussi très claire aussi bien dans le texte d'Isaïe que dans celui de Philippiens. La mort à la croix n'a pas eu le dernier mot. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel 40 jours après et il est assis à la droite du Père pour régner éternellement sur toute chose. Face à ces trois stades d'humiliation, nous avons aussi trois stades d'exaltation, d'élévation de Christ. D'abord, la résurrection. La résurrection de Jésus est fondamentale pour la foi chrétienne. Il n'y a pas de foi chrétienne possible sans la résurrection de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul indique dans un chapitre qu'il consacre à la résurrection, chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et dès le début de ce chapitre, l'apôtre Paul rappelle le cœur de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La résurrection de Jésus a plusieurs implications théologiques très importantes pour notre foi. La résurrection de Jésus implique la justification, la certification que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur, le Fils de Dieu vivant. La résurrection de Jésus confirme la victoire décisive remportée déjà à la croix. Jésus a dépouillé à la croix les puissances de leur pouvoir de condamnation et cette victoire a été confirmé par la résurrection. La résurrection de Jésus scelle notre justification à nous, à la croix. C'est à cause de nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 4. Le deuxième stade de l'exaltation du Seigneur est l'accession à la droite de Dieu le Père. Cette accession qui se manifeste concrètement par deux réalités historiques. La première, c'est l'ascension. 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté auprès du Père, comme il l'avait annoncé auparavant. Et en prenant place à la droite du Père, le Fils incarné fait entrer l'humanité au ciel. Et là, je cite notre frère Henri Blocher, fait entrer l'humanité au ciel. Jésus est le premier homme à participer dans son humanité totale avec le corps à la gloire céleste. La seconde manifestation de cette deuxième phase d'exaltation est le fait que Jésus exerce son règne, son pouvoir, dès lors, à la droite du Père. Jésus préside au trône céleste et exerce sa seigneurie, selon la parole du psaume 110 qui est citée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Le premier acte de notre Seigneur, il envoie l'Esprit à ses disciples. Il continue à le faire à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Il envoie l'Esprit. Mais aussi, Jésus continue à intercéder pour nous. Il continue à faire valoir continuellement les marques de ses mains. À chaque fois qu'un chrétien est condamné, qu'un chrétien est accusé parce qu'il a péché ou il a désobéi, à chaque fois qu'un péché, une désobéissance est confessée, Christ montre les marques de sa main, intercède en notre faveur pour dire que le frère, la sœur, justifié, déclaré juste. Enfin, la troisième phase de cette exaltation du Seigneur se manifestera lors de son retour. En ce jour-là, la victoire du ressuscité se manifestera à tous. En ce jour-là, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou, toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur. Ce jour-là, voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Les œuvres de chacun apparaissent selon leur vérité à la lumière de ce jour, de ce grand jour. En ce jour-là, il y aura l'instauration de la nouvelle terre, des nouveaux cieux, où la mort sera anéantie, où toute larme sera essuyée, où il n'y aura plus ni cri ni douleur. En ce jour-là, lorsque Jésus paraîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons transformés, nous lui ressemblerons pleinement, nous serons transformés, recréés en image de Christ à sa ressemblance. Ainsi, nous ferons partie de ceux et celles que Jésus conduira vers la gloire de son Père. Nous ferons partie de cette multitude de fils, de filles que Jésus conduira dans la gloire de son Père. Une gloire éclatante, une gloire belle, une gloire totale. Depuis la résurrection, une nouvelle réalité est en marche sur la base de la victoire à la croix. Une réalité qui se manifestera pleinement, dont bénéficieront tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur, comme leur seul médiateur entre eux et Dieu. Certes, ce médiateur s'est humilié jusqu'au bout par amour pour nous. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais ce médiateur est aussi glorifié. Ce médiateur est aussi exalté, élevé au-dessus de tout. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Et afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le médiateur. Quelle implication tirer de cet enseignement? D'abord, d'un point de vue de croyant que je suis, que nous sommes pour la plupart, je suppose. Je vous propose trois implications très concrètes. La première, c'est de ne pas nous priver de la présence de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir un médiateur qui a tout fait pour que nous puissions venir dans la présence de Dieu en toute liberté, aussi bien individuellement, mais aussi collectivement. Il serait dommage de vivre notre vie chrétienne en se privant de ce privilège qui nous est donné de venir dans la présence de notre Dieu. Concrètement, cette présence de Dieu se manifeste de plusieurs manières. D'abord, dans la prière, avoir des temps quotidiennement réservés spécialement pour parler à ce Dieu. L'une des difficultés que nous rencontrons en tant que chrétiens est le fait de ne pas avoir des temps fixes de prière dans la journée. Nous avons une liberté de nous tourner dans la prière. Vous savez, dans d'autres religions, comme par exemple le judaïsme ou dans la religion musulmane, il y a des temps fixes pour se tourner vers Dieu. Et d'ailleurs, parfois, ce cadre un peu fixe a séduit certains chrétiens, certaines personnes qui ont grandi dans des milieux chrétiens. Dans la foi chrétienne, nous avons la liberté, une vraie liberté qui nous est laissée de nous approcher quand on veut et comme on veut devant le Seigneur. Enfin, quand, c'est-à-dire avec crainte et tremblement quand même. Mais nous devons comprendre que cette liberté exige une vraie responsabilité, une responsabilité beaucoup plus exigeante que celle qu'on trouverait dans d'autres religions, parce que personne ne nous forcerait à le faire, et nous pourrions passer à côté de ce privilège immense qui nous est accordé grâce à l'œuvre de médiateur, à son abaissement et à son exaltation. Ensuite, nous pouvons vivre la présence de Dieu dans l'écoute de sa parole. Prendre l'écoute de sa parole, c'est cette parole qui nous permet de prendre le temps d'écouter cette parole, d'étudier cette parole, de la méditer, et pas simplement d'ouvrir pour voir un verset s'il peut me parler ou pas, mais de prendre de temps vraiment pour l'étudier régulièrement, aussi régulièrement que possible. C'est cette parole qui me permet de trouver, de connaître qui est notre Dieu, notre situation, nous en sommes. C'est cette parole qui nous éclaire et qui nous permet de marcher à sa lumière. Enfin, nous pouvons vivre la présence de Dieu aussi dans le service qu'il nous accorde d'exercer, aussi bien un service chrétien, mais plus généralement aussi notre vie tout entière, notre vie professionnelle. Là où Dieu nous place, avec les dons qu'il nous accorde, les ressources qu'il nous accorde, nous pouvons cultiver une vraie conscience de la présence de Dieu en nous et à nos côtés. Et pourquoi pas développer aussi une vraie dépendance de lui, ce qui nous permettra de faire un peu moins d'erreurs. Ne pas donc nous priver de la présence du Seigneur, c'est la première implication que je vous propose ce matin. La deuxième, pour le croyant, est de vivre le présent à la lumière du futur, à la lumière de notre future espérance. Vivre aujourd'hui à la lumière de notre espérance est une source de consolation, et c'est une source de consolation à bien des égards. C'est le cas en particulier lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous traversons des moments d'angoisse, lorsque nous passons par des épreuves, et cela très franchement dans notre manque. Hélas, ça ne manque pas. Nous sommes confrontés aussi en tant que chrétiens. Mais j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui sur un autre aspect que celui-ci, celui de notre responsabilité au présent. Nous devons être responsables de nos actes, de ce que nous faisons et de ce que nous ne faisons pas, à la lumière justement de cet avenir, de ce jour à venir. Sur ce point, peut-être je me trompe, mais je suis forcé de constater que les gens de ce monde, les non-chrétiens du moins, ou des gens d'autres religions, ont un sens des responsabilités beaucoup plus développé que celui que j'ai discerné, que celui que j'ai constaté, que celui que j'ai vu dans l'Église. Pourquoi ? Je me suis toujours posé la question pourquoi. Jacqueline Costa-Lascaux, qui est directrice de recherche au CNRS Sciences Po à Paris, écrit dans un article qu'elle consacre aux spiritualités sans Dieu. Donc il y a des spiritualités qui sont développées, mais sans Dieu. Donc elle n'est pas chrétienne, hein, enfin je sais pas. Mais en tout cas, elle consacre. Dans cet article, elle écrit quelque chose, je pense, qui peut nous éclairer sur notre responsabilité. Elle dit ceci. Elle dit la spiritualité sans Dieu. Donc son article s'appelle La spiritualité sans Dieu, un humanisme. Elle dit la spiritualité sans Dieu est un humanisme exigeant qui ne fixe aucune limite à l'exploration de la vie en vertu de laquelle la responsabilité est sans indulgence possible, sans rachat dans un au-delà lointain. une responsabilité sans indulgence possible, une responsabilité sans un rachat dans un au-delà lointain. Quel sens aigu de la responsabilité ? Avons-nous un sens de responsabilité aussi exigeant que celui-là ? Quel est notre sens des responsabilités face à notre présent ? Notre enseignement sur la grâce de Dieu peut nous conduire en effet à une forme d'irresponsabilité lorsqu'il est mal compris. Nous avons tout à fait raison d'enseigner avec toute la force et la vigueur que cela demande la grâce de Dieu et la grâce seule, aussi bien pour notre salut objectif, c'est-à-dire pour ce que Jésus a fait à la croix, que pour notre salut subjectif, ce que l'Esprit fit en nous pour nous transformer et nous changer. Tout cela, c'est la grâce et la grâce seule. Et nous avons tout à fait raison de le dire. Mais nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à ce que cet enseignement-là ne nous conduise pas dans une forme d'irresponsabilité et ou de démission pour laisser les choses faire, laisser les choses suivre leur cours. Je dis cela pour chacun d'entre nous, autant que membre de la famille de Dieu, autant que membre de l'Église de notre Seigneur, car nous aussi, autant qu'enfants de Dieu, nous allons devoir rendre des comptes de nos actes ou bien de nos non-actes devant le tribunal de Christ. C'est l'apôtre Paul qui l'indique. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5. « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités avec la grâce de Dieu, avec le soutien de l'Esprit. Mais nous devons prendre nos responsabilités, même lorsque cela nous fait perdre la belle image que nous essayons de développer de nous-mêmes, que nous aimerions nourrir et laisser auprès des autres. Lorsque les choses l'exigent, les situations l'exigent, il y a des choses beaucoup plus importantes que notre belle image, que notre maquillage. Il n'y a aucune raison que des non-chrétiens soient plus responsables que les chrétiens face aux événements présents, face au présent. La Bible n'enlève en rien notre responsabilité, même si nous avons une espérance, en effet. Mais cela n'enlève en rien à notre responsabilité face au présent. Une troisième et dernière implication du fait que Jésus est notre médiateur, c'est ne pas oublier justement que nous sommes que des passagers dans ce monde. Notre destinée finale est à venir. Elle est notre espérance, une espérance certaine, puisqu'elle est fondée sur le Christ et sa résurrection. Le danger d'oublier notre espérance est réel, surtout lorsque nous vivons dans un monde qui va tellement vite, où nous sommes tellement sollicités, où nous sommes tellement pris par tant de choses qu'il nous faut de réels efforts pour regarder vers l'avenir, vers l'horizon, vers la gloire à venir. Regarder vers cet avenir glorieux permet justement de relativiser certaines choses et de les apprécier à leur juste valeur. Ne pas oublier notre espérance permet aussi de prendre le recul nécessaire pour poser des actes en toute responsabilité. Ne pas oublier notre espérance, notre destinée finale, vivre notre présent à la lumière de notre avenir, vivre dans la présence de notre Dieu au quotidien. Tels sont, entre autres, les implications que je vous propose, que je nous propose ce matin et pour lesquelles je prie pour que le Seigneur nous aide à progresser dans chacune d'entre elles. Jésus-Christ médiateur, quelle implication maintenant pour le non-croyant ? Il se peut que parmi nous, certains n'ont pas encore fait le choix et pris la décision. La première implication, c'est bien entendu l'appel à la repentance et à la foi. Le salut offert par Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, et pour tous ceux qui répondront favorablement, y compris vous, à son appel, si vous le faites. Aujourd'hui, peut-être, un jour de salut pour vous, si Jésus n'est pas encore votre Seigneur, il peut le devenir, votre Sauveur, il peut le devenir, il peut être votre médiateur, et vous pouvez être au bénéfice de son œuvre passée comme à venir. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Comme nous l'avons aussi lu lors de cette première partie de culte, Joab nous l'a lu, Dieu a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas attendu à ce que nous soyons bons, saints, justes pour venir nous sauver, pour venir vous sauver, mais il l'a fait alors que nous étions encore pécheurs. Il s'agit là d'un amour sans fin, d'un amour vrai, d'un amour qui donne, qui redonne à l'être humain sa place dans le plan aimable, merveilleux de notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible ne cesse d'appeler le pécheur à la repentance et à la foi. Et ça fait partie de notre responsabilité, de la responsabilité de prédicateur aussi de l'Évangile, que de le rappeler autant de fois que c'est nécessaire pour permettre à des hommes, à des femmes, de faire partie de ces nombreux pour lesquels Jésus est venu s'est humilié, mais aussi élevé. Mais si la Bible ne cesse d'adresser un appel à la repentance, elle rappelle aussi sans concession la responsabilité de chacun, y compris du non-croyant, et pas simplement du croyant, la responsabilité de chacun vis-à-vis du jugement à venir. C'est la deuxième implication que je vous propose de tirer de cet enseignement sur Jésus. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'est pas responsable. Devant le tribunal de Dieu, nous sommes tous responsables. Cela me conduit à une troisième implication. Ne pas repousser toujours la décision qu'il faut prendre, la réflexion qu'il faut mener, le temps de recherche qu'il faut entamer devant le médiateur qui a tout fait, lui par contre a tout fait pour nous sauver, pour nous délivrer. Il vous faut avoir de la lucidité pour ne pas reporter la décision d'aujourd'hui à demain. Car personne ne peut vous assurer que vous allez encore être en vie demain. Je ne veux pas gâcher du tout votre journée si vous êtes de passage, et surtout si vous êtes ici pour la première fois, si c'est pour la première fois que vous entendez l'Évangile. Mais si la vérité, si quelqu'un vous dit autre chose, vous dit qu'il peut vous assurer de votre vie dans une heure, c'est un mensonge. La vérité parfois, en effet, elle peut nous bousculer. Et si ça peut vous bousculer, j'aimerais vous la dire en toute humilité et je serai très heureux de poursuivre la discussion avec vous si vous le souhaitez. Jésus-Christ a tout fait pour que vous soyez sauvés. Il a tout fait. Je viens de le rappeler brièvement, mais la Bible n'a cessé de mettre cela d'une manière éclatante. Il y a une chose que ce médiateur ne pourra pas faire à votre place, pour vous. Il ne pourra jamais vous forcer. Jamais. Parce qu'il vous aime, parce qu'il vous respecte. Parce que, avant tout, c'est vous qui avez besoin de lui. Et ce n'est pas le contraire. Il ne faut jamais renverser les rôles. C'est nous qui avons besoin de sauveur et non pas le contraire. Nous sommes encore dans le temps de grâce. Le médiateur Jésus-Christ est prêt à vous mettre au bénéfice de son œuvre passée, c'est-à-dire de ce qu'il a fait à la croix, et de son œuvre à venir, c'est-à-dire la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Il est prêt à le faire si vous venez vers lui. Pour nous croyants, nous avons le privilège immense de connaître ce médiateur, le sauveur Jésus-Christ. Nous ne devons jamais oublier, par contre, qu'il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, pour nous permettre de venir dans sa présence. Rien n'est automatique. Un prix a été payé. Nous ne devons pas oublier qu'il est élevé aussi. Il est élevé au-dessus de tout pour nous donner une destinée glorieuse, une destinée merveilleuse, une destinée éternelle. Voilà pourquoi nous pouvons dire au Seigneur, notre médiateur, ce que nous avons chanté déjà tout à l'heure, « Tu viens du ciel sur la terre, de la terre à la croix, pour payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. » Amen.